les podcasts de Radio Vatican.
Il est en train d'achever une longue aventure d'un an à la rencontre des minorités chrétiennes d'Asie et d'Orient. Paul Bablo était cette semaine à Rome. Après un an de volontariat avec les missions étrangères de Paris au service des missions catholiques auprès de la minorité carène, Paul Bablo s'était lancé fin 2016 dans un périple à vélo à travers 23 pays. L'objectif, mettre en lumière la ferveur des communautés chrétiennes locales, souvent peu connues du public occidental. Le pape François l'a personnellement félicité pour cette aventure qui s'achève alors que dans quelques jours, le voyage du Saint-Père en Birmanie et au Bangladesh donnera justement l'occasion de donner plus de visibilité à ces chrétiens d'Asie. De passage mardi dans nos studios, Paul Bablo nous a expliqué quel était le sens de son voyage.
Durant donc cette année de volontariat avec les carènes, j'ai travaillé donc avec des missionnaires et des prêtres locaux qui donc travaillent avec des chrétiens qui finalement sont complètement oubliés et dont personne n'a la connaissance. Enfin, ça reste extrêmement confidentiel. Et même mes amis, pourtant assez engagés dans l'Église, découvraient et étaient étonnés, même stupéfaits de voir la ferveur qui pouvait régner dans ces communautés, dans les montagnes, parfois à 3, 4, 5 heures de marche dans la jungle, pour arriver dans des villages chrétiens. Au fur et à mesure du temps, des mois, j'avais envie de faire mieux connaître ces communautés chrétiennes et je me suis dit, mais tiens, ça peut être une bonne idée de rentrer, de relier donc le diocèse de mission à mon diocèse d'origine qui est Paris. Et donc j'ai cherché un moyen de faire ça en étant suffisamment indépendant. Le vélo s'est imposé plus ou moins rapidement à moi, alors que je ne faisais absolument jamais de vélo en France.
Alors quel a été le parcours de ce voyage ?
Alors je suis passé donc de la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, la Chine, là où j'ai passé Noël avec l'église cachée de Chine, puis le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran, l'Arménie, la Géorgie, la Turquie, puis Chypre, le Liban, la Jordanie, la Terre Sainte, à nouveau Chypre, la Turquie, puis un bateau jusqu'à Athènes pour arriver en Europe, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, et désormais l'Italie et le Vatican.
Effectivement, donc c'est un immense périple. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été particulièrement ému par les chrétiens que vous avez rencontrés ? Vous avez évoqué l'église cachée de Chine, c'est une réalité méconnue en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vivent ces chrétiens ?
Eh bien, j'ai été extrêmement étonné de voir qu'ils ne sont pas du tout aussi cachés que ce que l'on en dit. Puisque donc j'ai passé Noël dans une vallée dans le Yunnan, et là vous avez 5 à 6 villages qui sont le long de la vallée avec des églises qui sont bien visibles, certaines ont d'ailleurs été reconstruites ces dernières années, et au milieu vous avez la maison du patron local du Parti communiste. Alors il sait très bien qu'il y a des chrétiens qui sont dans la région, et donc il y a quand même une vraie tolérance parce que les chrétiens ne sont pas cachés dans le sens, ils ne sont pas sous terre. Mais c'est pas l'église qui est en lien avec Pékin, c'est une église qui est liée à Rome et donc en communion avec Rome. Donc c'est là où on se rend compte que la notion d'église cachée est beaucoup beaucoup plus nuancée et le problème est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire en Europe.
Vous avez évoqué aussi les pays d'Asie centrale, Ouzbékistan, Turkménistan. On n'imagine même pas qu'il puisse y avoir des chrétiens dans ces pays. Quelles sont les communautés chrétiennes dans ces nations-là ?
Ex-URSS. Alors, principalement des orthodoxes, mais il faut revenir au 3e siècle, parce que dès le 3e siècle, vous avez une présence chrétienne, alors des Nestoriens, même donc au début, avant qu'ils se fassent excommunier. Donc les Nestoriens sont arrivés dans cette région, ont construit des monastères, des églises, etc. Puis vers le 7e, 8e siècle, il y a eu pas mal de persécutions. On retrouve au XIIe siècle, notamment sous Saint-Louis, des missions franciscaines qui reviennent. Et puis, donc depuis les années 1200 jusqu'en 1900, il n'y a aucune présence chrétienne. Donc les chrétiens se sont fait complètement éradiquer. Et là, Staline déporte au début du XXe siècle des dizaines, voire des centaines de milliers de Polonais et d'Allemands, chrétiens principalement, catholiques, mais aussi des orthodoxes. Et donc finalement c'est Staline qui amène la chrétienté contemporaine en Asie centrale. Donc ce bon mot de Monseigneur Mumbiela da Sierra, qui est l'évêque d'Almaty au Kazakhstan, qui me disait Staline c'est le plus grand missionnaire de la région. Grâce à lui on a une présence chrétienne aujourd'hui. Et ça m'a marqué parce que à Almaty, donc qui est l'ancienne capitale du Kazakhstan, vous aviez une cathédrale, la cathédrale du Sacré-Cœur, qui a été construite dans les années 60. Mais pendant 50 ans, tous les ans, la communauté catholique demandait à construire une église. Et puis bon, chaque fois refusé. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, la demande a été acceptée, parce que tous les ans, ils refaisaient la demande. en espérant que cette fois-ci, ils puissent construire une église. Et donc là, cette fois-ci, la demande a été acceptée et ils ont pu construire cette cathédrale.
C'est paradoxal, effectivement. Après, si on descend un peu vers l'Arménie, la Géorgie, là, vous arrivez dans des terres de chrétienté qui affirment leur identité chrétienne depuis des siècles. L'Arménie fait du christianisme une identité nationale aussi. C'est quelque chose que vous avez ressenti? Est-ce que c'est une identité purement un peu politisée ou est-ce que vous avez senti vraiment dans la population une ferveur, un enracinement profond?
Alors oui, il y a une vraie ferveur populaire avec... Et puis... Déjà, lorsqu'on arrive d'Iran et de tous ces pays d'Asie centrale, ça fait beaucoup de bien de voir des croix, des calvaires un peu partout. Il y a une vraie ferveur populaire. C'est très beau. Et puis, vous avez ces monastères qui parsèment le pays. J'ai été extrêmement ému de Tatev, notamment, et puis après de Korvirap, et puis des monastères dans le Haut-Karabakh.
Alors, si on descend un peu vers l'Iran, la Turquie, là, vous arrivez dans des terres où les chrétiens redeviennent ultra-minoritaires. J'imagine que dans votre voyage, vous avez rencontré des musulmans aussi. Est-ce que vous, face à eux, vous affirmiez votre projet de rencontrer des chrétiens? Comment c'était reçu cette dimension-là par les musulmans que vous avez pu croiser?
Oui, alors tout à fait. Je me cachais pas que j'étais moi chrétien. Et puis en plus, c'est des pays en Orient où on a une religion. C'est un concept qui pour eux est absolument improbable d'avoir de se dire athée ou de ne pas avoir de religion. Donc forcément, c'était donc toi, tu es chrétien, vu que tu es français, tu es chrétien. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour toutes ces personnes, on est français, on est chrétien. Et donc souvent un accueil chaleureux, puis une vraie tradition de l'accueil de l'étranger, quel qu'il soit. Et donc j'ai pu avoir aussi des discussions de foi, de théologie un petit peu avec certaines personnes, plus en Iran qu'en Turquie. Mais on voit qu'il y a une vraie aussi recherche de connaissances. Et en Iran, ce qui est paradoxal, donc c'est que l'islam est une religion d'État. Et à côté de ça, vous avez donc des persécutions réelles envers les chrétiens, mais qui ne sont pas directes, c'est insidieux. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de travailler dans tout ce qui est métier de restauration. Ils n'ont pas le droit de travailler dans les administrations, dans les banques. Et ils se font petit à petit quand même sortir du pays. Et c'est très difficile. Un missionnaire rencontré là-bas me disait depuis 50 ans qu'il voyait la communauté chrétienne diminuer. Et à côté de ça, vous avez l'université des religions à Qom, donc un petit peu au sud de Téhéran, qui vient de finir la traduction avec le Saint-Siège de Catéchisme de l'Église catholique en persan, en farsi. Et ils avaient traduit déjà une partie du Pentateuque, et là ils s'attellent désormais aux évangiles. Et c'est pas une traduction qui se fait juste de leur part, c'est un travail avec le Saint-Siège, donc c'est une véritable traduction. Hein. De toute façon, l'Iran est un pays de paradoxe. Donc j'étais, on va dire, pas un paradoxe près, mais ça m'a à peine surpris quand le nonce m'a annoncé ça. Il m'a dit, mais regarde, voilà ce qu'on vient de terminer avec l'Université des religions de Qom. Donc ce qui montre quand même qu'un dialogue est possible et qu'il y a des vraies questions théologiques et une vraie recherche de savoir ce que c'est que le christianisme. Dans ces universités, il y a une vraie recherche de comprendre en tout cas ce que c'est. Après, pour la conversion, ça c'est le Saint-Esprit qui travaille. Mais au moins d'un point de vue universitaire, de savoir ce qu'il en est.
Quand on vient de traverser une aventure aussi énorme, est-ce que rentrer en Europe, c'est pas un peu cassant, un peu froid par rapport aux expériences de ferveur que vous avez pu vivre dans d'autres pays où les chrétiens sont minoritaires? Est-ce qu'en arrivant dans un pays où l'Église a un statut beaucoup plus ancien et protégé, est-ce que c'est pas un peu dur de retrouver la froideur européenne ou est-ce qu'au contraire, vous regardez ça avec un regard plus frais et plus enthousiaste?
Disons que d'une certaine manière, déjà, il n'y a pas ce côté très chaleureux de l'Orient d'une façon générale. Mais en même temps, bon, c'est quand même beaucoup plus facile de rencontrer des chrétiens. Et l'idée de ce voyage, c'est vraiment de rendre témoignage de toutes ces communautés chrétiennes qui sont sur la route. Et donc, notamment, à celles qui sont en France, en Italie et sur la route. Donc c'est vrai qu'on peut être un peu désarçonné de cette froideur parce que ça n'a plus rien d'extraordinaire de rencontrer un chrétien pour moi, dans le sens où j'en vois tous les jours et presque tous les 100 mètres. Alors que c'est sûr, en Iran, on n'en voit pas tous les jours. Mais il faut savoir se réjouir de la simplicité de ce qu'on peut voir au quotidien. Donc non, je suis pas déçu d'arriver en Europe, je suis heureux. Et puis d'un point de vue très pratique, c'est quand même aussi beaucoup plus facile. On retrouve des repères qu'on connaît. Donc là-dessus, il y a un côté plus facile pour s'abandonner un peu encore plus à la Providence, puisque d'un point de vue matériel, on n'a aucun problème. Donc, Là-dessus, c'est plus facile, il fait beaucoup moins froid qu'en Chine.
Et donc là, ce mardi matin, vous avez participé à la messe à Sainte-Marthe avec le pape François. Vous avez pu avoir un petit échange avec lui. Comment ça s'est passé?
Oui, tout à fait. Donc j'ai eu la grande grâce de pouvoir assister à sa messe matinale. Et donc à la fin, nous avons discuté rapidement. Je lui ai demandé de signer mon livre d'or en lui expliquant le périple. Et il m'a vraiment dit bah, merci pour ce que tu fais, parce que tu vas rendre témoignage et tu vas montrer aux Européens, aux Français, toutes ces communautés chrétiennes. Et on a besoin de personnes comme toi qui font ça. Donc j'étais très honoré et un petit peu gêné parce que ma petite promenade à vélo et d'avoir qu'elle puisse avoir un retentissement comme ça, mais je vais prendre au mot le pape François.
C'est peut-être providentiel, justement, il s'apprête à s'envoler pour l'Asie. Dimanche, il prend l'avion pour la Birmanie et le Bangladesh. Est-ce que vous pensez que ce voyage aussi aidera les Européens à prendre conscience de ces petites chrétientés asiatiques qui sont parfois si peu connues?
Je pense que oui, et puis bon, je suis touché parce que donc, j'ai passé un an à la frontière birmane qui était de l'autre côté du fleuve qui est au bout du jardin. J'ai pu arpenter la Birmanie en rencontrant des chrétiens. Et c'est vraiment, oui, des belles communautés qui ont une foi fidèle. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est de voir que finalement, plus les épreuves ont été difficiles, plus leur foi est vive. Et c'est un beau message que le pape peut adresser aux Européens en allant visiter voilà, ces périphéries, ces chrétiens qui sont rarement mis au premier plan.
Un entretien réalisé par Cyprien Biette.